Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver cette année encore pour du grain à moudre d'été. Faut-il vraiment parler de loi travail ? À entendre le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi, on pourrait en douter. Édouard Philippe a évoqué un projet de rénovation sociale. Et à y regarder de plus près, le projet présenté le 28 juin en Conseil des ministres s'intitule, il faut prendre sa respiration, projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Pourtant, les concertations commencées avec les partenaires sociaux le 9 juin et qui se termineront le 21 juillet sont bien entrées dans le dur. On discute de la priorité aux accords d'entreprise sur les accords de branche, de plafonnement des indemnités prud'homales, de CDI de projet et de bien d'autres mesures qui visent, selon le gouvernement, à libérer le travail. C'est le grand projet de ce début de quinquennat, celui qui doit répondre à la première préoccupation des Français, l'emploi. Voici des mois qu'on débat, des années, si on ajoute les discussions autour de la loi El Khomri qui a posé les premières bases de la loi Pénicaud, au point qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle, de mesures techniques ou d'un véritable changement de société. Posons donc une question simple, qui a besoin de la loi travail ? On en discute jusqu'à 19h, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr. Et trois invités autour de la table pour en parler. Emmanuel Barbara, bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste du droit social, vous défendez plutôt les employeurs en la matière, vous êtes aussi enseignante à l'école de droit de Sciences Po et à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En face de vous, Sandrine Foulon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques, qui consacrait d'ailleurs son numéro de juin au Code du travail avec ce titre « Un mauvais procès ». Voilà, vous allez nous dire pourquoi on fait un mauvais procès au Code du travail aujourd'hui. Enfin, Éric Kayer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur du département d'analyse et de prévision de l'OFCE. Alors, ce sera le feuilleton social de l'été. Je l'ai dit en introduction de cette émission, nous avons voulu revenir aux fondements économiques et théoriques aussi de cette loi. Alors, une première question, est-ce qu'il faut vraiment parler de loi travail ou est-ce que c'est une loi qui va au-delà de simples questions, on va dire, juridiques et techniques, Sandrine Foulon?
Non, je crois que vous avez raison, c'est plutôt des mesures techniques. Et bon, ça fait longtemps qu'on connaît ces mesures, ce sont des vieilles revendications patronales. C'est pas un débat nouveau. On a eu la loi travail, on est dans la continuité de cette loi travail, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis à peu près 30 ou 40 ans. Et en fait, on est sur un débat qui est-ce qu'il faut lever les contraintes ou pas, pour les employeurs notamment. Donc on est plus dans une espèce de mesures techniques plutôt que de vraies réflexions sur l'avenir du travail, sur la place qu'il prend aujourd'hui. Là, on est sur, vous avez raison, des mesures techniques.
Emmanuel Barbara ?
Je ne pense pas tout à fait la même chose parce que je crois que la loi travail en question n'est pas qu'un listing, un énième listing de mesures à l'après-vert pour modifier tel ou tel aspect technique et complexe du Code du travail, mais qu'il s'inscrit, et c'est assez inédit cette fois-ci, il s'inscrit, et je m'appuie à cet égard sur l'exposé des motifs qu'il faut vraiment lire, sur une approche multidisciplinaire qui met l'aspect droit du travail dans une approche transverse, dans une trajectoire qui prend en considération d'autres domaines qui touchent évidemment à l'éducation de manière générale et son prolongement dans la formation professionnelle. Aussi, et c'est un point très 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 innovant, à l'assurance chômage qui est étendue à d'autres catégories de travailleurs que les salariés, à savoir les travailleurs indépendants, et c'est pour moi un sujet absolument majeur que de faire accéder cette population à ce qu'on appelle le modèle social, y compris en cas de démission. Donc c'est intéressant de voir, et je pense qu'au travers de la démission tous les 5 ans, il y a une analyse en creux, je suis d'accord avec vous, en creux sur qu'est-ce que travailler veut dire de nos jours, et c'est une question qui est à mon avis qui traverse finalement ce projet, dont les mesures techniques ne sont qu'une partie, j'allais dire, obligatoire.
Je finis mon tour de table, Éric Kayer.
Non, mais sans doute, il y a un projet un peu plus que des instruments techniques. C'est-à-dire que on peut.
En d'ailleurs, tout cas, il y a une intention, elle a été.
Oui, et d'ailleurs, Emmanuel Macron.
Répété aujourd'hui par le président,
dans son discours d'hier, donc il n'y a pas que le Premier ministre, ne parle plus de réforme, il parle de transformation. Il n'y a pas le mot réforme une fois.
Donc, il a même théorisé, il dit la France ne se réforme pas, elle se transforme.
Elle se transforme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire peut-être que le mot réforme, derrière, il y a des mots efforts, c'est synonyme d'effort, alors que lui, il dit non, mais ce n'est pas des efforts qu'on demande, c'est juste une transformation de la société. Donc, alors ensuite, est-ce que la loi travail répond à cette transformation ? C'est un autre enjeu. Mais effectivement, si on essaie de résumer sa logique, c'est de dire, enfin, il est vraiment dans une logique très, il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Ce nouveau monde, il faut essayer de lever toutes les contraintes pour que ce nouveau monde émerge. Et donc, il avait fait quand il était ministre de l'économie, la loi Macron, c'était sur les biens et services. Maintenant, il s'attaque au marché du travail. Donc, il y a bien cette logique. Le monde change. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Donc, aidons-le. Sauf que, il nous dit aussi, je pense qu'il a bien vu que la qualité des nouveaux emplois sera inférieure à la qualité des anciens emplois. Et donc, dans la destruction créatrice à la Schumpeter, bien sûr, il y aura une précarisation. Et donc, il faut des droits nouveaux. Alors, c'est là où il y a un peu... Et donc, c'est pour ça qu'il ouvre aux indépendants, et notamment. Mais on voit que là où il manque quand même quelque chose, c'est qu'il y a un autre triangle dans son incompatibilité, c'est qu'il faut en plus réduire les déficits et donc le poids de l'État. Et donc, comment fait-on pour avoir un État-providence plus fort avec moins d'argent pour cet État-providence? Je pense que c'est là tout l'enjeu. Et c'est vrai que pour l'instant, on voit que des aspects techniques et pas globaux.
On va avoir l'occasion d'y revenir, évidemment, mais peut-être qu'il faut revenir au fondement de cette loi, en tout cas à l'idée qui préside à cette loi, à savoir le Code du travail est un frein à l'emploi. Et donc, il faut, comme le dit le gouvernement, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, libérer le travail. Votre sentiment là-dessus, Emmanuel Barbara, vous qui avez l'occasion justement de défendre des patrons sur une base quotidienne sur ces questions-là.
Je n'ai jamais entendu, ni vu en pratique, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, un quelconque patron me dire « je vais suspendre, sursoir à l'embauche ». Tant j'ai peur de l'impact du licenciement. Donc là, c'est un peu une légende urbaine que de s'imaginer que l'employeur tétanisé derrière sa chaise avec un gros cigare en train de s'interroger sur le coût global.
Et un chapeau
global.
De forme.
Non, je pense que le débat n'est plus celui-là. Enfin, on veut absolument le faire venir sur ce terrain-là. C'est dommage parce que précisément, le travail devenant impensé à la fin des temps, la question est de savoir qu'est-ce que travailler veut dire dans une société où il s'échappe de nos doigts d'une certaine manière avec en embuscade l'automatisation. Alors, on nous dit est-ce que c'est la fin du salariat, du CDI, du travail même? Bon, donc tout ça est passionnant, mais donc précisément, il faut relativiser le point. Donc je crois que plus certainement, savoir si la loi travail, la première, la deuxième et probablement d'autres, depuis, ça fait quand même un moment qu'on remet le sujet sur les chevaux, je pense qu'au bout du compte, la question est de savoir si on est davantage dans l'adéquation avec le temps qui passe et surtout si le siège des protections, car c'est de cela dont on parle, si le siège des protections qui était tout logé dans le CDI Graal, hégémonique, pratiquement unique avec son pendant fonction publique, aujourd'hui sont susceptibles de bouger davantage ailleurs pour accueillir dans une acception plus, j'allais dire, plus horizontale finalement, non pas la fin du CDI ou autre facétie du même genre, mais à tout le moins une réévaluation mécanique de ce que travailler veut dire sous les formes que l'on dit, et je dis le mot français, sous les formes atypiques. Ça veut tout dire du dédain qu'on leur rapporte.
Sandrine Foulon.
Ah, moi, je suis très heureuse d'entendre Emmanuel Barbara dire que les employeurs n'ont pas peur de l'embauche, parce que c'est pas du tout le discours qu'on entend. Alors, ça rejoint ce que vous dites, une enquête qu'on a beaucoup commentée de l'INSEE il y a une quinzaine de jours. L'INSEE a interviewé, enfin, a demandé à 10 000 chefs d'entreprise quels étaient les principaux freins à l'embauche. Le premier qui arrive en tête, c'est l'incertitude sur les carnets de commandes. Le deuxième, c'est la difficulté à trouver les compétences. Et tout ce qui est coût du licenciement, coût du recrutement, incertitude liée à tout ce qui est aspect juridique, ça arrive en queue de peloton. Donc on est bien là, effectivement, dans la réalité du terrain. Les employeurs n'ont pas nécessairement peur de l'embauche. Mais c'est pas du tout ce qu'on nous dit, c'est pas le discours qui est véhiculé. Et quand on parle, par exemple...
Mais au-delà du discours, est-ce que la loi travail telle qu'elle se dessine, se limite à ces aspects-là?
Mais si elle se limite à ces aspects-là, si vous prenez... Enfin, on parle justement du bloc, hein, je suis d'accord avec vous sur la formation professionnelle, sur tout ce qui va arriver après. Mais ça arrive après. Symboliquement, ce qui arrive d'abord, c'est ce bloc loi travail. Et ce qu'on voit, c'est l'indemnisation, par exemple, la barémisation des indemnités prud'homales. Là, c'est purement symbolique.
Peut-être expliquer aux auditeurs, même si ça fait un bout de temps qu'on en parle,
c'est vrai,
cette barémisation, c'est-à-dire en cas de licenciement
abusif,
pour des causes réelles et sérieuses, justement, proposer
de
plafonner les indemnisations
C'est les dommages et intérêts.
C'est les dommages et intérêts. Oui, c'est-à-dire, on ne parle pas de licenciement économique, on ne parle pas de harcèlement, on parle de licenciement abusif.
Ça ne marche pas non plus pour les licenciements pour discrimination.
Bien sûr, mais en fait, vous envoyez quand même un signal signal très fort aux employeurs. Vous dites, voilà, si tu violes la loi, voilà ce que tu vas risquer. Au maximum, ça va être ça. Donc, voilà, on nous dit, mais oui, de toute façon, sur le terrain, c'est déjà ce qui se passe. Mais là, on enverrait un signal très fort. Donc, on considère qu'en fait, le recrutement joue aussi sur la confiance, le moral des entreprises. Mais enfin, il faut quand même toujours s'interroger quand on modifie la loi, quand on introduit des changements. Il faut se demander pourquoi on le fait et s'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui va s'emparer de la loi.
Éric Ayer, on est rentré un peu plus vite que je ne pensais dans le fond de la loi, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de revenir à l'esprit, mais attachons-nous à la lettre, si vous le voulez bien, sur cette question notamment des indemnisations prud'homales et voilà sur l'idée que cette loi elle met en avant des mesures qui sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on pourrait vraiment attendre d'une transformation du travail telle que Emmanuel Barbara l'a définie tout à l'heure.
Non, ce qu'il faut savoir, c'est une loi, enfin, quel est l'objectif de cette loi? Si l'objectif de cette loi, c'est de créer des emplois, clairement, on sera déçu. C'est pas par la loi travail qu'on va créer des emplois. Si maintenant, l'objectif de cette loi, c'est de lutter contre une sorte de dualité du marché du travail, où aujourd'hui, en France, la flexibilité macroéconomique en France est relativement bonne, mais c'est uniquement certains salariés qui assurent une flexibilité relativement bonne pour la France. Donc, il y a des gens extrêmement flexibles et des gens qui le sont beaucoup moins. Donc, et cette dualité peut être effectivement assez nocive, et donc on peut essayer...
Est-ce qu'on parle de dualité ou d'inégalité à ce titre?
Si vous voulez, inégalité,
c'est pas pareil.
Dualité. Bon, dualité, c'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a très peu de gens extrêmement flexibles et voilà. Bon, alors donc on peut se dire, ce qu'il faut, c'est essayer de rendre cette flexibilité un peu plus homogène. Alors comment le fait-on? Alors si c'est ça l'objectif de cette loi, alors effectivement, on peut penser qu'avec une loi, on peut essayer de rendre un peu plus homogène. Mais vous voyez qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'on attend d'une loi? Et c'était assez intéressant de voir qu'au moment de la loi El Khomri, les économistes étaient divisés en deux. Il y avait deux grandes chroniques tribunes, mais aucune des deux tribunes était sur le thème « Cette loi El Khomri va créer des emplois ». Donc, je pense que, enfin, en tant qu'économiste, il faut rappeler, ça ne créera pas d'emplois. C'est-à-dire que ça a été bien rappelé par Sandrine Foulon, c'est-à-dire que c'est pas ça qui crée des emplois. Et même si je peux compléter l'enquête, il y a quand même la moitié des entrepreneurs interrogés qui ont dit qu'ils n'ont pas du tout de frein. Donc, globalement, effectivement, elle doit essayer d'être lu sur est-ce que ça peut permettre d'homogénéiser cette flexibilité. Et ça, c'est un autre point de vue.
Vous voulez réagir rapidement
sur... Oui, juste, mais vraiment sur les éléments de langage, c'est vrai que sur la loi El Khomri, on l'a très bien vu, il y avait aussi ce premier discours, lever la peur de l'embauche, créer de l'embauche. Après, ça a été, on va rénover le dialogue social. Et vous venez de le dire, dans le discours de politique générale, on n'est plus sur créer de l'emploi, on est aussi sur rénovation du dialogue social, transformation.
Alors justement, sur cette question du dialogue social, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre, mais un élément d'actualité, on a le sentiment qu'il y a une relative indulgence des syndicats, puisque, rappelons-le, il y a en ce moment une série d'entretiens qui doivent se tenir jusqu'à la fin du mois de juillet à peu près, avant le vote de la loi d'habilitation, et puis après à la rentrée, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'application véritablement de cette loi. Comment vous la percevez, vous, cette relative indulgence d'ailleurs? Est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que c'est une réalité? Je vous redonne la parole parce que vous suivez ça bien, Sandrine Foulon, et puis après je ferai circuler.
En fait, c'est un peu tôt pour se prononcer parce que là, on est au début des concertations. Donc, on voit des syndicats qui sont un peu dans leur rôle. C'est le cas de la CGT, de la CFDT. La CGT poursuit sur sa ligne contestataire. Elle l'avait fait pendant la loi El Khomri. Elle continue. Elle appelle à une journée de mobilisation le 12 septembre. La CFDT est sur une ligne plus réformiste, je dirais comme d'habitude. Elle cherche des solutions. Ce qui est plus étonnant, c'est effectivement la position de Force ouvrière de Jean-Claude Mailly qui paraît plus conciliant qu'avant, mais il faut attendre parce que lui, il y a des lignes jaunes sur lesquelles il va pas transiger non plus, donc il faut attendre. Il y a aussi plus étonnant, plus surprenant, la position de la CFE-CGC de François Omeril. Il a remplacé Carole Couvert à l'époque sur la loi travail. Ils étaient plus réformateurs. Aujourd'hui, on l'entend qui est un peu plus contestataire. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que cette loi, c'est un paquet de mesures. Il y a au moins 6 grands thèmes. Aujourd'hui, on peut entendre qui sont conciliants sur la barémisation des indemnités prud'homales ou sur le compte pénibilité, mais il y a d'autres thèmes sur lesquels peut-être ils vont être intransigeants, et là il faut vraiment attendre le contenu des ordonnances, parce que c'est ça la vérité, on verra ce qui sort de tout ça, et là on pourra se prononcer sur l'indulgence ou non des syndicats.
Emmanuel Barbara, on parle toujours de cette question du dialogue social. Vous diriez qu'aujourd'hui il fonctionne bien, il fonctionne mieux, que cette loi est de nature à le réactiver?
Écoutez, le dialogue social, c'est dans le fond le mantra qui accompagne toute loi normalement constituée en matière de près ou de loin qui touche au travail depuis, je dirais, 1998, première loi sur les 35 heures. En gros, c'était voilà, depuis 2004, on a réagencé, commencé à discuter du point de savoir la branche, l'accord d'entreprise, comment ils fonctionnent l'un envers l'autre. Et puis depuis lors, c'est un festival de refondation du dialogue social, amélioration du dialogue social. Bon, chaque année, nous apporte son lot d'améliorations et que aujourd'hui, c'est la der des der. Bon. Au bout du compte, ce que l'on observe, c'est quoi ? C'est que dans le fond, on est aujourd'hui dans une situation, je dis aujourd'hui, en ce compris loi El Khomri, qui n'a pas donné beaucoup d'effet à la seconde où on se parle, puisque les décrets ont eu lieu jusque littéralement le mois de mai. Bon. Donc, et davantage un jeu de rôle. Un jeu de rôle dans lequel effectivement il y a de la production. Hein, quand on regarde la production d'accords collectifs est absolument phénoménale depuis ces dernières années. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est aussi simple que ça. C'est qu'il suffit d'adosser une petite sanction pécuniaire au défaut d'accord d'entreprise sur l'égalité, les seniors, le handicap et j'en passe, pour que évidemment au bout du compte, comme par magie, les accords, etc. Deuxième élément, les accords en question ont ceci de particulier qu'ils sont d'une vacuité certaine. C'est-à-dire qu'en gros, au mieux, ils annonnent et paraphrasent la loi. Au pire, ils se lancent dans des constructions au risque de se retrouver annulés. Donc, il y a une forme de timidité à cet égard parce que le principe, c'est que la feuille de route dite légale est tellement millimétrique qu'il vous reste, j'allais dire, de quoi vous retourner, enfin, des marges de manœuvre ridicules. C'est la raison pour laquelle celle-ci, cette loi-ci, cette tentative-là, essaye véritablement de faire un... Alors, le mot est atrocement galvaudé, mais de faire preuve de confiance ou de donner de la confiance. Je sais que c'est pas bien vu, notamment du côté des employeurs, enfin, au profit des employeurs. C'est l'idée que vous êtes assez grand pour pouvoir vous débrouiller, pour vous mettre d'accord, pour co-construire du droit applicable à votre maison.
C'est donc, formidable. Ce que vous décrivez là, voilà. Emmanuel Barbara...
Après, on arrête le stylo, on soulève le stylo et on arrête d'écrire. Vous voyez, si on arrive à faire ça, mais pour le moment, c'est très bavard. Hein. Il y a 78 pages pour expliquer pourquoi on veut faire ça. J'exagère, je suis un peu dans l'outrance. Mais l'idée, c'est que si d'aventure, on ménage vraiment cette idée que le dialogue social peut se construire en donnant confiance aux uns et aux autres, des moyens supplémentaires, n'oublions pas les moyens attribués aux organisations syndicales, plus une sorte de fin de suspicion légitime que suscite l'action de l'employeur, ab initio, eh bien, essayons de voir ce que ça donne. Mais à ce moment-là, il faut soulever le stylo.
Alors, pour mettre un mot sur ce que vous êtes en train de nous décrire, Emmanuel Barbara, ce dont il est question, c'est cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire est-ce qu'il faut un accord de branche qui a le pouvoir sur l'accord d'entreprise ? Est-ce que c'est la loi ou le contrat qui prime, en quelque sorte, si je dois mettre un petit peu des grands principes, Éric Heyer, est-ce que cette loi, encore une fois, telle qu'elle se dessine, est de nature véritablement à inverser ce rapport ?
Ah, ça, on le verra à la fin, mais effectivement, il y a une tentative d'inverser.
Est-ce que c'est souhaitable ?
Alors, est-ce que c'est souhaitable ? Ah, oui, mais c'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que, enfin, moi, en tout cas, je le partage complètement. Si on peut penser, pourquoi pas, que le meilleur endroit où on connaît l'entreprise, c'est au sein de l'entreprise, et qu'on peut essayer de renégocier au sein de l'entreprise. Bon, mais pour ce faire, il ne faut pas qu'on se fasse trop de concurrence entre nous, parce qu'effectivement, tout le monde, tu diras, on s'entraîne une chasse, une course au moins 10 ans, mais surtout, cette confiance au sein des entreprises, vous voyez, il y a des enquêtes qui sont assez passionnantes. Alors, ce sont des enquêtes, hein. C'est du qualitatif, c'est pas du quantitatif, mais oui, et qui sont réalisées sur 102 pays. Donc, et à la question où est-ce que vous mettez la valeur travail, la France arrive premier pays développé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une valeur travail extrêmement développée, contrairement à l'idée que l'on a avec les 35 heures, on a perdu la valeur travail. Non, au contraire, à la question où est-ce que vous mettez la valeur travail dans l'éducation de vos enfants, etc., c'est très élevé en France. En revanche, à la question... Le rapport employé-employeur, est-ce que vous êtes bien au travail ? Quelle est la conflictualité au travail ? Là, on est 99e. Derrière nous, de mémoire, il y a Trinidad, Venezuela et le Nigeria, je crois. Donc, on est extrêmement au fond. Donc, ce que nous disent ces enquêtes, c'est que on sait que c'est par le travail qu'on s'accomplit, mais on n'est pas bien au travail. Les rapports au sein de l'entreprise sont extrêmement conflictuels et donc dès qu'on a une porte de sortie pour justement en pré-retraite ou on le prend. Donc ça veut dire que globalement aujourd'hui, si on croit ces enquêtes encore une fois, la confiance entre employé et employeur n'existe pas. Et c'est pour ça aussi que l'État intervient souvent, puisqu'il n'y a pas de confiance entre employés travailleurs employés, ben, l'État essaye d'imposer, mais puisqu'il n'y a pas beaucoup de confiance non plus entre les employés et les employeurs vis-à-vis de l'État, ben, il y a tout le monde dans la rue. Donc je pense que peut-être que la mère des réformes, c'est de retrouver ce dialogue social. Alors comment fait-on pour retrouver ce dialogue social ? Est-ce qu'on doit imposer comme en Allemagne des salariés dans les conseils d'administration ? Est-ce qu'on doit imposer un taux de syndicalisation de se syndiquer ? Enfin, mais on devrait commencer d'abord par dire on n'a pas le terrain pour la réforme, donc préparons le terrain et ensuite on appliquera une réforme.
J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, Sandrine Fillon.
oui, mais je vais un peu répéter ce que dirait Kaya, mais c'est vrai, moi je suis d'accord sur la qualité du dialogue social, sur la qualité de la négociation, sur le fait de faire confiance, de se faire confiance. Mais là, on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on va donner aux entreprises la possibilité de négocier beaucoup d'accords sans tenir compte de la qualité de notre dialogue social actuel et des rapports de force qui sont souvent défavorables aux salariés aujourd'hui, surtout quand on est encore en période de chômage massif. Donc en fait, il faut, si on a une entreprise rêvée avec un dialogue social structuré, beaucoup de représentations, des rapports de force, on peut avoir du gagnant-gagnant, on peut faire des bons compromis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Et ce que je ne vois pas, ce que je ne trouve pas malheureusement dans la loi, c'est tout ce qui va remettre du dialogue social. Aujourd'hui, par exemple, on parle du primat de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, mais on parle aussi de la fusion des instances représentatives du personnel. Alors c'est un peu technique, mais l'idée, c'est de fusionner les comités d'entreprise, les CHSCT, les comités d'hygiène et sécurité, les délégués du personnel et peut-être les DS. Mais on n'est pas sûr. Là, les délégués syndicaux. Mais cette nouvelle instance serait capable de négocier. Alors, autant vous dire que là-dessus, les syndicats sont tous vent debout contre, parce que pour eux, c'est la mort du syndicalisme et on les comprend. Mais voilà, l'idée, c'est comment on améliore le dialogue social. Moi, je ne vois pas dans la loi aujourd'hui ce qui le permet.
Oui, mais Sandrine Fillon, si c'est souhaitable ce meilleur dialogue social, si ça correspond à l'évolution du travail de passer plus par le contrat que par la loi, si ça correspond au désir de liberté tel que le dit évidemment notre Premier ministre Édouard Philippe, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce qu'on doit vraiment attendre l'entreprise idéale? Parce que sinon on le fait jamais, excusez-moi.
Non, mais si on dit qu'on va utiliser les accords d'entreprise, si on dit qu'on va passer par là, il faut qu'il y ait les acteurs pour le faire. C'est ça qui manque.
Emmanuel Barbara.
Alors, juste plusieurs points. Effectivement, en France, vous évoquiez ce point qui est absolument majeur et qui permet de faire le lien avec les aspirations individuelles. En France, à l'évidence, l'habit fait le moine. Enfin, quand je dis l'habit, c'est l'habit du travail fait le moine. Et le fait de perdre un travail est chez nous vécu comme une tragédie, mais une tragédie inextinguible. C'est une tragédie aussi pour les Britanniques, mais en aucun cas comparable à nous parce qu'on perd notre identité. Et ça, c'est un point très important car perdre son identité dans ce que l'on est vis-à-vis de nos voisins, de notre famille, etc., c'est effectivement une tragédie insurmontable. Or, tout nous indique que du fait de la conjonction à la fois de la globalisation des échanges, de l'amplification, j'allais dire, de la compression du temps, du fait de l'amplification des nouvelles technologies, tout va beaucoup plus vite. Ça, c'est un peu pour répondre pour les fusions des IRP, enfin, des institutions représentatives du personnel. Mais, et troisièmement, les aspirations des individus. Pardon, mais vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie d'entrer dans une place, on disait une place dans le temps, pendant 37 ans et demi, 40 aujourd'hui, jusqu'à la retraite, à faire la même chose sous réserve des promotions bienvenue. Je veux dire, ça existe de moins en moins, enfin c'est pas que ça existe de moins en moins, c'est que les aspirations sont radicalement inverses, puisque moi j'ai tendance à dire, sur la base de tout ce que j'ai pu lire comme littérature sur au plan de la sociologie du travail, que dans le fond, le salarié se rebiffe. C'est-à-dire que le salarié, effectivement, il met en place des stratégies de retrait, que ce soit vite partir à la retraite, vite se trouver dans une situation moins investie, et surtout ressentir ce qu'on appelle en français le bullshit job, donc on sait ce que ça veut dire, et donc la reconversion qui s'y rapporte, et surtout les 18-34
dans lequel on ne se reconnaît pas, ou en tout cas on ne trouve pas satisfaction, pour le
exactement.
Dire poliment.
Exactement. Oui, mais enfin c'est traduit en langue étrangère, et donc du coup, en français ça se dit. Et dernier point, c'est les aspirations et la figure emblématique qui est devenue archétypale aujourd'hui de la start-up, la figure lumineuse de la start-up qui est rien qu'une TPE.
Start-up nation, hein, il
paraît. C'est-à-dire, oui, mais justement, la start-up, en gros, hein, c'est la version positive de TPE, entrepreneur de soi, etc. Donc, et cette figure-là, c'est pas qu'on aime l'entreprise davantage que dans le temps, c'est que simplement on veut la paix, on veut plus de chef et on veut plus rester dans l'entreprise. Donc il faut réconcilier tout ça et donc le maître mot, et je pense qu'il est un peu en creux dans cette loi, parce qu'il faut y aller un peu mollo, si je puis dire, c'est la culture du mouvement. Dans le temps, on avait la pérennité pour soi et toute la vie pour avancer et faire les choses dans le temps, etc., et à long terme. Aujourd'hui, on n'a juste plus le temps. Donc c'est la culture du mouvement pour tous, et ça correspond en plus aux aspirations individuelles.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre sur France Culture, il est 18h, presque 45, on parle de la loi travail, mais on va au-delà des questions techniques, vous l'avez compris depuis le début de cette émission, avec l'avocate Emmanuelle Barbara, l'économiste Éric Heyer et la rédactrice en chef adjointe d'Alternative Économique, Sandrine Foulon, qui voulait réagir à ce que vient de dire Emmanuelle Barbara. Et ça tombe bien parce que on arrive finalement aussi au cœur philosophique presque de cette loi, c'est l'individu face au travail et la nécessité, pour aller dans le sens de cette évolution du travail, d'attacher les droits aux individus et plus seulement à la place, à l'emploi. Quel est votre sentiment là-dessus par rapport à ce que vient de dire aussi Emmanuelle Barbara?
Oui, alors il y a deux questions. Alors ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement une ringardisation du CDI. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup aujourd'hui que les gens aspirent à plus de liberté, qu'ils veulent pas de lien de subordination. On n'ose même plus employer ce mot parce que ça fait un peu féodal. Ça fait l'employeur qui a servi le salarié. Mais c'est le fondement même du code de la relation de travail, enfin vous le savez mieux que moi, c'est que c'est pas une relation symétrique. Un employeur et un employé, c'est une relation asymétrique. Donc en fait, à l'inverse, vous dites, est-ce que beaucoup de gens veulent rester 30 ans, mais est-ce que beaucoup de jeunes aussi veulent enchaîner les CDD comme ils le font aujourd'hui? Vous savez, un CDI, un tiers des CDI sont rompus dans l'année. Oui. On peut même pas dire qu'un CDI, c'est quelque chose
d'extrêmement... Je crois que le temps moyen d'un CDI, c'est 3 ans, si je
veux dire. Exactement. Et pour... oui, donc en fait, il y a quand même un changement. Effectivement, il y a peut-être une aspiration à plus de liberté, mais aussi une aspiration à plus de sécurité. Et ça, on a l'air de trouver qu'aujourd'hui, c'est une notion qui est complètement ringarde. Après, sur la question d'attacher des droits aux individus, oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'objet de ce qu'on a appelé...
C'est justement le volet sécurité de la flexisécurité.
Oui, mais alors, c'est ce qui existe déjà depuis, depuis la loi, même avant la loi travail, sur le compte personnel d'activité, le CPA, qui en fait est une sorte de sac à dos, vous emmenez vos droits avec vous, vous quittez l'entreprise et vous les gardez. C'est des droits de formation, c'est des droits liés à la pénibilité. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, ce sont des droits théoriques qui doivent normalement vous accompagner. C'est plutôt malin, parce que l'idée, c'est effectivement vous changez d'entreprise, puisqu'on a des carrières de plus en plus hachées. Donc l'idée est bonne, mais aujourd'hui, c'est assez vide. Et je trouve qu'aujourd'hui, on parle toujours de flexi-sécurité. Il y a une expression d'une économiste, Anne Hédoux, que je trouve intéressante, qui dit notre modèle, c'est plutôt celui de l'introuvable sécurité. On flexibilise, et on le fait depuis 30 ans, mais on n'arrive pas à trouver la sécurité. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette nouvelle loi, c'est compliqué... À moins d'attendre la formation professionnelle et ce qui va se passer pour les droits des chômeurs. Dans le premier volet, en tout cas, on en trouve peu.
Éric Heyer.
Ouais, non, mais je vais un peu rebondir là-dessus. Effectivement, il faut bien rappeler que le CDI ne veut pas dire un emploi à vie. Enfin, donc il y a bien une différence entre CDI et emploi à vie. Effectivement, c'est à peu près 3 ans avec des ruptures qui sont quand même assez régulières. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que, donc effectivement, il y a tout ce problème de formation et donc tout lien qui est attaché au CDI plutôt qu'au CDD. Mais il y a même, notre société est pas faite pour les CDD. Enfin, vous voyez, trouver un logement quand vous êtes en CDD, c'est quasi mission impossible. Avoir accès au crédit bancaire quand vous êtes en CDD, c'est quasiment mission impossible. Donc, pour avancer, pour aller de l'avant, il faut avoir un logement, il faut avoir un crédit bancaire. Donc, vous voyez, se dire que le CDI, c'est forcément l'immobilisme, non, au contraire, puisqu'on change souvent de CDI et d'emploi. Et en plus, c'est ça qui nous permet de grandir et de sortir de chez nos parents. Donc, non, au contraire, aujourd'hui, CDI égale liberté. Alors, ça veut dire que si on doit changer, et c'est pour ça qu'à mon avis... Enfin, je comprends pas très bien la méthode. C'est-à-dire que de se dire, on va faire la réforme du marché du travail, puis ensuite on va faire une réforme de l'assurance chômage. Non, je pense qu'il faut une réforme globale, si vous voulez.
C'est plus difficile de réformer les accords du crédit bancaire, par exemple, ou le fait de trouver un logement.
C'est-à-dire que, vous voyez, dans les pays qui ont réussi cela, ils ont fait une réforme globale. C'est-à-dire que globalement, ils ont réformé les biens et services, le marché.
Par exemple.
Disons, dans les pays scandinaves ou même dans les pays anglo-saxons, c'est une autre forme de flexi-sécurité. Mais vous voyez, enfin typiquement, alors si je prends l'anglo-saxon, parce que généralement on prend les scandinaves, les pays anglo-saxons, pour moi il y a la flexi-sécurité, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez une flexibilité totale sur le marché du travail, mais la sécurité, et vous n'avez pas droit au chômage, etc. Donc vous allez me dire, où elle est où la sécurité? Elle est dans la politique macroéconomique, c'est-à-dire que quand ça, le gouvernement ou les autorités vous assurent qu'il y a toujours la croissance. Donc, si vous tombez au chômage, c'est pas grave, vous allez retrouver un emploi parce qu'il y a la croissance. Et comment ils arrivent à avoir toujours la croissance? Eh bien, s'il faut laisser filer les déficits et rester à 12% de déficit pendant la crise, eh bien, on reste à 12%. S'il faut baisser les taux d'intérêt extrêmement vite, on baisse les taux d'intérêt. S'il faut faire du quantitative easing, une politique monétaire extrêmement accommodant, donc ils se donnent
les moyens. Nous emmener vers l'Union européenne, là.
Mais alors, donc, ils se donnent les moyens, bien sûr. C'est-à-dire que globalement, se dire, on va aller plutôt vers la flexi-sécurité à l'anglo-saxonne, parce que les Scandinaves, on n'a pas les moyens. moyens parce que ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter la dépense publique et on n'a pas les moyens, eh ben, on peut pas le faire en anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'ou alors il faut dire, ben, on a 12% de déficit. Mais vous voyez que le problème, c'est qu'on veut, au lieu de réfléchir globalement, on se dit, tiens, on va prendre la flexibilité à l'anglo-saxonne du marché du travail, mais en réduisant les déficits et en espérant que la politique monétaire soit pas accommodante. Ça ne marche pas.
Emmanuel Barbara.
Oui, je pense que vous êtes un petit peu sévère parce que pour la première fois, on met de manière délibérée en lien et en liaison justement tous les autres aspects, les six volets mis bout à bout qui ont au total pour objectif, me semble-t-il, de conférer aux personnes les sécurités qui aujourd'hui ne sont attribuées qu'en effet au CDI, si bien que le CDI, c'est le passeport pour la vie. Donc si vous n'avez pas de CDI, pas d'accès au logement, pas d'accès au crédit. Et il me semble que dans le cadre d'un CPA, d'un compte personnel d'activité quelque peu plus étoffé et qui soit un véritable véhicule de ces fameuses protections que l'on conférerait aux personnes, au travers de ce que travailler veut dire, hein, c'est-à-dire en lien avec tous les statuts, parce qu'on n'a pas parlé de l'empilement de la multi-activité qui pose des questions insondables en matière de sécurité sociale, de protection sociale et d'empilement des droits, c'est d'une complexité folle. Mais si on était capable de créer la portabilité des droits dans ce compte personnel qui ne mettrait pas des trucs qui n'ont pas beaucoup de lien entre eux actuellement depuis le service militaire en passant par la pénibilité, mais bref, des vrais droits, en ce compris le scoring, enfin, comment dirais-je, les droits à l'accès au crédit. Et il doit y avoir un moyen de demander à nos amis les banquiers de nous donner un scoring qui soit autre chose que la production de 6 bulletins de paie successifs qui sont en plus du sable. Parce que sincèrement...
Le scoring, c'est la note que vous donnent les banquiers pour savoir si vous attribuez ou non le crédit.
Quelles sont les conditions qui feraient que cette personne-là, venant se présenter à mon guichet, voilà. Et ça serait une manière de sécuriser l'accès des personnes à la vraie vie, au projet de vie. Or, tout l'enjeu, et du fait des technologies, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est elle qui confère cette idée que je suis à la manœuvre de ma propre vie personnelle et que j'entends bâtir ma vie professionnelle aussi. Mais pour ça, il faut que j'ai des droits que mon modèle social me donne. Et c'est vrai que le modèle social n'est pas entier, figé dans le Code du travail et qu'il est un peu partout et disparate.
Alors, c'est vrai qu'on parle évolution des droits, on parle numérique, donc quelque chose qui est très contemporain. Et pourtant, on a l'impression que les analyses telles qu'on les développe depuis le début de cette émission, elles correspondent un petit peu à ce qui a été fait dans les années Blair en Angleterre, les lois Hartz en Allemagne. Et donc, est-ce qu'on est véritablement dans une modernisation du travail, des lois qui encadrent le travail, qui correspondent à notre époque, ou est-ce qu'on est plutôt dans une période de rattrapage de la France qui a pris du retard en la matière? Je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à cette question.
Je sais pas, si vous prenez l'Allemagne, les réformes Hartz, d'abord, ça visait à flexibiliser les CDD, pas les CDI. Ouais. La protection de l'emploi, alors c'est très difficile à mesurer la protection de l'emploi. Il y a l'OCDE qui s'y risque, c'est extrêmement critiquable, mais vous voyez, là, on est dans le théorème du lampadaire, on regarde là où c'est éclairé. Bon, voilà, quand on regarde le scoring de l'OCDE, ils nous disent que les CDI sont plus protégés en Allemagne qu'en France. Et les réformes Hartz n'ont pas du tout bougé et ont figé ces positions. En revanche, ils ont extrêmement flexibilisé les CDD. Mais là, on en revient à la question tout à l'heure. Oui, payer des emplois à 2-3 euros de l'heure en Allemagne, ça passe. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, les prix du logement sont extrêmement plus faibles. Vous pouvez vous loger avec 3 euros quasiment. Enfin, il y a des aides après de l'État. En France, vous voyez, pourquoi on peut pas baisser le SMIC? Parce que si vous baissez le SMIC, vous pouvez plus vous loger. Donc, vous voyez que c'est en cela où tout est global. Et ensuite, une fois que l'Allemagne, il faut rappeler les conditions, lorsque l'Allemagne s'est proposée à ses réformes Hartz, le chancelier Schröder est allé voir Jacques Chirac à ce moment-là, en leur disant voilà, je vais faire des réformes dures, ne m'ennuie pas trop avec les déficits. Et l'Allemagne, à ce moment-là, laissait filer les déficits. Vous voyez, c'est le seul moment de la période de la construction européenne où les Allemands font pire que nous en termes de déficit. Donc, vous voyez, et c'est intéressant de regarder cela en disant, on peut pas tout serrer. C'est-à-dire que quand vous flexibilisez d'un côté, ben, il faut sécuriser soit par des déficits, soit par des politiques monétaires. Et ça, je pense que aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on se lance tous en même temps dans la même stratégie en voulant réduire les déficits. Et là, on se dit, il y a sans doute un triangle d'incompatibilité qui va faire que peut-être que, en tout cas, dans un premier temps, les réponses vont avoir un impact négatif sur la croissance.
Sandrine Foulon, cette idée que la première mission sociale de l'État, finalement, c'est de favoriser l'initiative, les conditions de l'emploi, plus que d'assurer, financer l'insécurité en quelque sorte de ceux qui se retrouvent sans emploi.
Mais alors juste pour dans le prolongement de ce que vous venez de poser comme question sur l'effet retard, enfin sur le modèle étranger, parce qu'on dit souvent mais partout ailleurs on flexibilise, partout ailleurs on réforme et nous en France on ne réforme pas. Donc en fait on a le sentiment des fois d'avoir une espèce d'effet retard. On court derrière les réformes Hartz, on court derrière les réformes Renzi, le Job Act en Italie, on court derrière les réformes espagnoles, elles n'ont pas toutes donné les mêmes résultats d'ailleurs, mais c'est vrai que ces pays, par moment, reviennent en arrière. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des décentralisations de la négociation collective. On a beaucoup donné, justement, de possibilités aux entreprises de négocier sur le terrain. Aujourd'hui, on revient. L'Allemagne aussi revient sur la couverture conventionnelle. On va ces pays-là vont dans un mouvement inverse. Et nous, on continue à réformer en disant il faut qu'on le fasse, il faut absolument qu'on flexibilise. Et comme le disait Eric, c'est souvent c'est malheureusement au détriment de la qualité de l'emploi.
D'autant plus, Emmanuel Barbara, qu'on n'a pas le sentiment que le code du travail tel qu'il est aujourd'hui en 2017, il soit exactement le même, par exemple, que ce qui était en 1997, on va dire à la fin des années 90, au moment où Tony Blair faisait cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit toujours on ne réforme pas en France. Il n'y a peut-être pas une réforme globale avec une vision, mais il y a eu quand même une flexibilisation du marché, ou en tout cas un certain nombre de réformes. Alors cette loi travail, là, telle qu'elle arrive, elle bénéficie à qui, à laquelle, selon vous, elle sert?
Mais encore une fois, elle bénéficie, elle traite du sujet qui concerne d'une part les employeurs et d'autre part les salariés, quels qu'ils soient, salariés en CDI et salariés en CDD, etc. Et l'idée étant qu'on essaye d'ajuster au plus près le recours et le régime, finalement, qui s'applique à ces personnes dans un contexte qui est encore une fois le nôtre d'aujourd'hui. Alors, je trouve troublant, enfin, je trouve dommage qu'on n'évoque pas d'un mot, ne serait-ce que d'un mot, quel est dans le fond le devoir de l'employeur qui émane de tout ça, parce qu'on a l'air de dire qu'on porte atteinte aux droits, aux modèles, mais enfin, le devoir de l'employeur qui résulte de, finalement, ces intentions qui sont dans ce projet de loi d'habilitation, c'est que le devoir de l'employeur consiste à faire en sorte que les salariés ou les personnes auxquelles il recourt à titre indéterminé ou déterminé soient employables. Et ça paraît un détail, mais c'est quand même juste majeur, c'est-à-dire de donner aux gens la capacité d'être dans une forme de résilience, de pouvoir faire face à d'autres enjeux, à d'autres activités et sous d'autres formes, de manière à ce que l'on arrête de vivre ces tragédies qui tournent autour de la perte de cet emploi, fût-il à l'initiative de l'employeur. Je veux parler d'un licenciement, mais oublions pas l'impact des démissions et ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles. La démission est tombée en désuétude. C'est-à-dire que les gens aussi aimeraient bien pouvoir utiliser ce qu'ils savent faire et se sentant fort de cela, puissent envisager la suite. Donc le devoir de l'employeur, c'est à l'évidence, et pas comme un mantra, une capacité d'amélioration, toujours en français, des capacités, excellente traduction, du salarié, de sorte que celui-ci fasse fructifier comme son actif principal son know-how, là encore français. Vous observerez que tous les mots qui entourent le monde d'aujourd'hui sont tous en anglais, depuis le leadership, en management, le care et autres. C'était absolument extraordinaire. Nous, on a raté, on a perdu la bataille des mots.
Un déficit de pensée, en tout cas, la bataille des mots. En tout cas, sur le travail du côté français, je ne sais pas qui est-ce qui veut réagir. On arrive au bout de cette émission. Sandrine Foulon, peut-être.
Non, mais sur la formation professionnelle, mais bien sûr, sur l'employabilité, comme vous dites, c'est un devoir de l'employeur. D'ailleurs, il y a une jurisprudence très abondante qui dit que si on ne forme pas suffisamment ses employés, on risque quelque chose. Enfin, on peut être condamné. Mais le problème, c'est que, encore une fois, c'est un volet qui va arriver après. Et ce qu'on voit dans les autres pays, je parle en termes de formation professionnelle, ce qu'on voit dans les autres pays, c'est que, justement, si vous prenez le cas du Royaume-Uni, il y a eu énormément de flexibilisation et une productivité, Eric Ayer le dirait mieux que moi, qui a baissé. Parce que, justement, ces gens-là n'ont plus accès à la formation. Ils n'ont plus accès à la formation des entreprises.
Merci, on aurait pu continuer évidemment très très longtemps, c'était un débat passionnant et d'ailleurs on va le continuer, je suis sûr, pendant tout le mois de juillet, soit dans cette émission, soit au matin de France Culture ou ailleurs évidemment. Je vous remercie Emmanuel Barbara, Sandrine Foulon, Eric Ayer d'avoir été parmi nous. Toutes les références vous concernant seront sur notre page Du Grain à Moudre d'été. L'émission a été préparée ce soir par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, c'était Anne-Laure Chanel, à la prise de son Yanis Djoudad.